comment ne pas constater, comment ne pas imaginer que les sujets sur lesquels nous travaillons depuis hier matin est à la fois une dimension personnelle, une dimension individuelle, familiale, microsociale, macrosociale et finalement, on vient de le voir, une dimension politique. Ne jouons pas sur les mots. C'est pourquoi au moment où nous nous dirigeons vers la fin de ce carrefour, il nous semblait important de donner la parole au délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Il devait nous rejoindre et au dernier moment, il est empêché. Il nous adresse donc Madame Dorothée Pradine, qui travaille quotidiennement auprès de lui et que nous remercions de venir nous rejoindre. Je vous en prie, Madame.
Merci beaucoup. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Petit encouragement, en effet, parce que Olivier Noblecourt est bien plus familier de l'exercice que moi. Donc, je ne suis pas une experte, mais comme il vous prie de l'excuser d'être retenu ailleurs, c'est moi qui ai le grand honneur, mais aussi la joie, le plaisir de clôturer ce forum. Et donc, je représenterai le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Et deux choses vous surprendront peut-être, puisque certains me diront « Mais Olivier Noblecourt n'est-il pas le délégué à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes ?» Ce qui est effectivement toujours son intitulé officiel dans son décret de nomination. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que le président de la République a voulu finalement donner à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, et c'est très heureux pour les publics concernés, un champ plus large, mais élargi à tous les âges de la vie, pour combattre les déterminants de la pauvreté tout au long de la vie, avec un objectif fort, un fil rouge, misé sur l'accompagnement des personnes. Et ça, je sais que l'accompagnement, c'est votre mission du quotidien, donc je suppose que ça vous parle. Mais quand même, oui, Olivier Noblecourt est toujours délégué à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, car ce public reste la première brique de la stratégie, son inspiration première qui irrigue de nombreuses mesures annoncées. Et c'est aussi le public qui incarne le mieux cette double ambition de prévenir et lutter. Et ça aussi, je suppose que ça vous parle. Pour le dire d'une façon un peu provocante, que vous m'excuserez, je l'espère, des personnes pauvres, hélas, il y en aura toujours. Ne serait-ce que parce que la pauvreté, du moins monétaire, mais aussi dans une certaine mesure la pauvreté matérielle, sont des mesures statistiques relatives. On compare des populations par rapport à un niveau médian de revenus, donc... Voilà, d'un certain point de vue, il y aura toujours des personnes pauvres. Mais le déterminisme de la pauvreté, lui, est absolument insoutenable. Que la roue ne tourne pas, que l'ascenseur social soit en panne, quelle que soit l'image utilisée, c'est aujourd'hui cette réalité à laquelle la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté entend s'attaquer. Puisque plus que d'autres pays, du moins à en croire certaines études, notamment encore il y a un peu plus d'un an, celle de l'OCDE, la France est devenue un pays où les enfants pauvres seront des adultes pauvres. Et ça, nous ne pouvons nous y résoudre. Et je suppose que votre engagement quotidien tient aussi à ce refus de se résigner à une telle fatalité. Deuxième chose qui peut surprendre, c'est que la délégation à la prévention et à la lutte contre la pauvreté vienne clôturer ce forum consacré à la protection de l'enfance, qui plus est sous-titré « Prendre soin de tous ». On peut être pauvre sans avoir besoin d'être protégé, et on peut avoir besoin d'être protégé sans être pauvre. Donc n'est-ce pas un peu réducteur, n'est-ce pas un raccourci d'associer lutte contre la pauvreté et protection de l'enfance ? Alors c'est un raccourci que je me garderai bien de faire, mais... Notre présence, ma présence ici, s'explique quand même. Parce que, d'une part, l'universalisme de la protection de l'enfance, qui est aussi celui de la PMI, par exemple, ne saurait être efficace qu'en retenant une approche d'universalisme proportionnée. Ces politiques s'adressent à tous, mais pas à tous de la même façon. Il convient de s'adresser à chacun selon ses besoins, et nous savons que les besoins sont souvent en fonction de la situation sociale des familles. Donc il faut aller vers... pour que la prévention dans le champ social ne produise pas les effets paradoxaux qu'on constate dans le champ sanitaire. Je me permets cette comparaison, puisque c'était aussi un thème fort de ce forum. Dans le champ sanitaire, ce sont ceux qui sont les plus sensibles aux messages de santé publique, ceux qui sont le plus sensibles aux messages de santé publique sont ceux qui ont déjà les comportements, disons, les plus sains, les plus proches des recommandations. Et les campagnes de santé publique ont pour conséquence d'aggraver des inégalités que la prévention aurait dû contribuer à réduire au bénéfice de tous. Et d'autre part, notre présence s'explique parce que lorsqu'on parle du besoin de prendre soin de tous, on rejoint aussi le fondement de l'ambition d'éradiquer la grande pauvreté qui a été fixée par le président de la République à la stratégie que nous pilotons. C'est-à-dire s'attaquer à la racine du problème et à commencer par ceux qui ont le plus besoin d'aide. Prendre soin de tous est un défi qui nous est posé par ceux dont personne ne prend soin, de même qu'éradiquer la pauvreté est un défi posé par ceux qui sont les plus exclus de tout. C'est bien ceux pour qui l'accès aux soins ou à l'accompagnement social est le plus difficile qu'il faut s'occuper en priorité. Mais la simple lecture du programme de ce forum, et je regrette de ne pas avoir pu y assister durant ces deux jours, mais m'a rassurée puisque les intervenants, les sujets choisis prouvent que vous êtes déjà confrontés au quotidien à ces besoins et convaincus que la protection de l'enfance et la prévention de la pauvreté sont des sujets qui se rencontrent dans de très nombreuses, trop nombreuses, hélas, situations. Santé, logement, alimentation, etc. On sait que la précarité matérielle peut être la cause ou bien la conséquence de nombreuses autres difficultés. Parfois, le cercle des causes et des conséquences est difficile à démêler. Les fils s'enchevêtrent, mais je suis très sensible à l'image du carrefour que vous vous êtes choisi. Les problématiques de protection de l'enfance d'une part, de prévention et de lutte contre la pauvreté d'autre part sont, comme vous-même qui les rencontrez et les accompagnez, au carrefour de nombreux défis, de nombreux enjeux. La santé en est un, bien sûr, très fort, avec sa dimension inhérente de soins, du corps, de l'esprit. Je ne vais pas redire moins bien ce que d'autres ont dit bien mieux pendant ces deux jours. Mais je crois que l'accompagnement social est une autre forme de soins, de prendre soin dans toutes ses formes. Donc accompagnement budgétaire, bien sûr, soutien à la parentalité, accès aux biens essentiels que sont l'alimentation et le logement, mobilité, liens sociaux, etc. Et c'est d'autant plus le cas si le soin ou l'accompagnement laisse une place véritable à la personne soignée ou accompagnée. Je souhaite donc vous exposer ou vous rappeler, pour ceux qui les connaissent déjà bien, il y en a peut-être quelques-uns dans la salle, les 5 grands engagements de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Et je vous ferai grâce d'un exposé détaillé du contenu de chacun d'entre eux, mais je mentionnerai quelques mesures qui vont, je pense, dans le sens de mon propos. Premier engagement, l'égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté. Comme je le disais, c'est la première brique. Deuxième engagement, garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants. Parce qu'il est aujourd'hui inadmissible qu'un enfant ne mange pas à sa faim, ne puisse pas être logé de façon décente, accéder aux soins, etc. Troisième brique, qui concerne plus les jeunes, un parcours de formation garanti pour leur donner des clés de succès, de réussite pour l'avenir. Et les deux derniers engagements qui sont, eux, moins liés aux enfants et aux jeunes, mais indirectement qui le sont quand même, aller vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l'activité. C'est notamment le grand chantier du revenu universel d'activité qui a été lancé avec une concertation citoyenne qui va être lancée dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à y participer si vous le souhaitez. Et le cinquième engagement, investir pour l'accompagnement de tous vers l'emploi et notamment des bénéficiaires du RSA. Ces deux derniers piliers, comme je le dis, peuvent contribuer, même si ce n'est pas leur cœur de cible, à l'équilibre des familles, à la sortie de leur pauvreté, puisque la famille est un écosystème dont on ne peut détacher les problématiques des enfants sans traiter celles des parents, bien sûr. Et l'accès aux droits sociaux et de santé ou l'émancipation par l'emploi sont aussi des outils qui aideront les familles. Donc, j'ai pas envie de vous épuiser après deux jours bien remplis de forums, mais je voulais mentionner quelques arêtes, en pointiller et esquisser les contours de certaines mesures qui figurent dans ces engagements et qui doivent très concrètement contribuer à un meilleur accompagnement des familles précaires. Dans le premier engagement, on porte une ambition de plus grande mixité sociale dans les établissements d'accueil du jeune enfant, puisque c'est à la fois un facteur qui doit permettre le bon développement de l'enfant et l'acquisition de plus grandes chances de réussite scolaire, mais c'est aussi lever un frein d'accès à l'emploi, de retour à l'emploi pour les familles. C'est en tout cas un facteur de reproduction des inégalités au regard de nombreuses études internationales sur lesquelles nous espérons agir avec de nouveaux outils de financement des crèches principalement. Le développement de centres sociaux dans les quartiers de la politique de la ville qui n'en sont pas dotés est un autre élément fort. Les centres sociaux permettent un lien de proximité, ils sont un lieu ressource aussi pour le soutien à la parentalité, le partage d'expériences entre pères, la reprise de confiance en soi. Et ça aussi, ce sont des éléments qui nous semblent importants pour accompagner les personnes. Dispositifs de soutien à la parentalité qui sont aussi soutenus par la stratégie. Là, je pense que vous les connaissez bien, peut-être mieux que moi. Mais là encore, il s'agit bien de prévenir et aussi d'accompagner lorsqu'elles surviennent les ruptures de vie. Et je souhaite mentionner tout particulièrement le dispositif l'exemple des espaces de rencontre parents-enfants qui sont soutenus par la stratégie pauvreté avec la branche famille, car elles sont essentielles au maintien du lien avec les deux parents et à la construction de l'enfant dans un environnement familial qui peut être conflictuel ou marqué par des tensions fortes. La PMI, bien sûr, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec l'ambition de la recentrer sur son cœur de mission et de lui donner les moyens de la remplir. Les points conseil budget, ça touche peut-être plus directement à certaines de vos missions. Dès 2019 a été entrepris un maillage de tout le territoire pour soutenir et donner de la visibilité à des structures d'accompagnement ou d'information budgétaire et de prévention du surendettement. Donc il y aura, donc on labellise des structures qui existent si elles proposent certains services de façon inconditionnelle à toute personne qui pourrait les solliciter. Et il y en aura 400 labellisés sur tout le territoire d'ici fin 2020. S'agissant de l'accès à l'alimentation, vous avez probablement entendu parler de deux mesures, les petits déjeuners à l'école et l'aide à la mise en place d'une tarification sociale des cantines. Alors, on a parlé parfois de la cantine à 1 euro, mais en fait, il y a déjà beaucoup de communes qui le font. Donc là, il s'agit d'une mesure ciblée sur les petites communes rurales qui n'ont pas les marges financières pour offrir cet accès à tous les enfants. Et les petits déjeuners à l'école, là encore, l'idée n'est pas de se substituer aux parents, mais d'organiser des actions couplées à de l'éducation et à l'alimentation qui associent les parents, précisément pour que l'enfant et le parent prennent conscience de l'importance, du sens de ce repas et pour accompagner les parents dans leur responsabilité. Il y a aussi des mesures sur l'hébergement et le logement qui sont complémentaires du plan quinquennal pour le logement d'abord et qui ciblent du coup plutôt les besoins des familles jusqu'aux besoins d'accès à la culture et aux loisirs pour les enfants en hébergement, puisque répondre à leurs besoins essentiels que sont la santé, l'alimentation, avoir un toit, c'est très bien dans l'urgence, mais si on veut croire en l'avenir, si on veut investir dans leur épanouissement et leur donner des chances de s'intégrer, l'accès à la culture et aux loisirs est aussi très important. Pour les jeunes, et je vais faire un peu vite car je suppose que vous êtes tous, je crois que vous avez tous très chaud comme moi. Pour les jeunes, l'obligation de formation jusqu'à 18 ans a été adoptée dans la loi pour une école de la confiance et entrera en vigueur en septembre 2020. Et cette instauration va de pair avec un développement des parcours d'accompagnement, puisqu'un jeune décrocheur à 16 ans, c'est pas en lui disant de retourner à l'école jusqu'à 18 ans qu'on va réussir à le faire raccrocher. Donc il faut développer des dispositifs pour lui permettre de s'insérer d'une autre façon. C'est pour ça que c'est une obligation de formation et pas une extension de la scolarité obligatoire. Et donc les parcours d'accompagnement comme la garantie jeune ou le PACEA sont aussi renforcés par la stratégie. Les points accueil et écoute jeune, puisque l'accueil et l'écoute sont quand même aussi un préalable à l'accompagnement des besoins. Mais aussi pour les jeunes majeurs, la prévention des sorties non accompagnées de l'aide sociale à l'enfance. Et parce que là encore, même s'il n'est pas permis de faire l'amalgame entre aide sociale à l'enfance et pauvreté, force est de constater que la sortie de l'aide sociale à l'enfance s'accompagne dans de très nombreux cas d'une précarisation des jeunes majeurs. Donc le but n'est pas de fournir au département les moyens de maintenir les jeunes majeurs en hébergement indéfiniment, mais de mieux préparer la sortie du jeune avec lui et de l'accompagner vers les dispositifs de droit commun mieux mobilisés. Et on peut saluer à cet égard l'engagement de l'assurance maladie et des CROUS qui se mobilisent pour donner une vraie portée à cette mesure. Et enfin, puisque nous parlions du soin, on peut mentionner des mesures qui sont entrées en vigueur en 2019, le renouvellement automatique de la CMUC pour les bénéficiaires du RSA, parce que, comme le dit parfois Olivier Noblecourt, c'est toujours le monde est mal fait, et c'est quand on a un pépin de santé qu'on se rend compte qu'on n'a pas rempli le formulaire pour renouveler une prestation à laquelle, par construction, si on est bénéficiaire du RSA, on a droit. Donc voilà, maintenant, c'est un problème qui a été levé, et la fusion de la CMUC et de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé qui intervient au 1er novembre prochain sera une autre étape pour améliorer l'accès aux soins des ménages modestes. Je finis. Je souhaite finir en mentionnant un axe transversal qui ne fait partie d'aucun des engagements, mais qui est un levier identifié dans la stratégie, un levier de transformation, c'est la participation des personnes concernées. Elle doit devenir centrale dans l'élaboration des politiques publiques au niveau national, régional, local, de proximité. J'ai mentionné tout à l'heure les centres sociaux, mais aussi les centres de santé communautaires, les CHRS, etc. Et la stratégie œuvre en ce sens. Mais au regard du thème de ce forum, je ne peux m'empêcher cet aparté. Il est aussi crucial que cette association des personnes concernées aux décisions qui les concernent soit déclinée jusqu'au cœur de l'accompagnement individuel. C'est un enjeu de bien-traitance, c'est un mot que j'ai vu aussi dans le programme, mais aussi de prise de confiance en soi et in fine de véritable émancipation de la personne. Il me reste à vous remercier, chacun et chacune, pour votre engagement quotidien, pour votre présence, et à remercier très chaleureusement le Carrefour national des délégués aux prestations familiales et la Convention nationale des associations de protection de l'enfance et l'IRTS pour leur invitation et pour avoir donné à la délégation interministérielle l'occasion de rappeler l'ambition profonde qui anime son travail quotidien avec l'ensemble des ministres concernés, qui est d'accompagner chaque foyer en fonction de ses besoins pour prévenir la reproduction des inégalités. Merci encore et bonne journée à tous.
Merci, madame.